CFM Cahors, le mag.
Et bienvenue sur CFM Cahors, c'est vendredi, c'est week-end. Les livres, ça sera avec, en deuxième partie d'émission, avec Sandrine de la librairie Calligramme et les libraires indépendants du Lot. Mais d'abord, on va reparler un peu d'archéologie dans le Lot. Alors, on vous a déjà parlé de cette cellule d'archéologie, où ils ont trouvé d'ailleurs un petit trésor qui va peut-être nous en dire beaucoup sur l'histoire de l'Albinque. Ça sera, c'était il y a quelques temps. Mais pendant qu'on a fait ce reportage, je me suis rendu dans un endroit où il va y avoir un supermarché qui va s'installer. Alors ce reportage, on ne le diffuse que maintenant, pour la simple et bonne raison qu'ils voulaient être un petit peu tranquilles, donc ils ne voulaient pas qu'on soit dérangé. Ils m'ont demandé de diffuser le reportage bien après, parce que cette cellule archéologique, si vous vous souvenez, elle intervient avant qu'il y ait une construction, histoire de voir ce que l'on peut trouver à l'intérieur. Et bien c'est justement le premier reportage de ce jour. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est l'heure du mag. Dans le mag aujourd'hui, on s'extériorise. Je suis sur l'avenue Anatole de Monzy, dans un endroit où on va construire prochainement un magasin Lidl, un nouveau magasin Lidl. Mais avant cela, eh bien, il y a ces fouilles archéologiques que je suis en train de visiter et nous allons le faire pour vous. Avec nous, Aurélie Sérange. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Archéologue à la cellule archéologique du département du Lot. Alors, ça fait combien de temps déjà que vous êtes sur cette affaire, si je puis dire?
Alors, on a commencé mardi dernier, donc ça fait à peine une semaine qu'on a commencé ici.
Alors là, je vois qu'il y a quand même trois énormes trous. Comment on se base quand on est archéologue pour se dire c'est là qu'il faut qu'on creuse?
Alors en fait, nous on doit tester 10% du terrain. L'État nous demande de tester 10%, donc on va placer des tranchées de manière plus ou moins stratégique. On va se placer souvent nord-est, sud-ouest, pour essayer de recouper les structures antiques s'il y en a. Et ensuite, de manière plus pragmatique, on fait en fonction de la place qu'on a et de la place qu'il va falloir pour les déblayer, parce que vous voyez que ça fait quand même de très gros tas de terre. Et des endroits accessibles. Là, il y a des endroits auxquels on ne pourra pas accéder parce qu'il y a des maisons, parce qu'il y a de la végétation. Donc après, on essaie vraiment de se placer selon la place disponible.
Alors on imagine l'archéologue a toujours cette vieille image avec la pelle, la truelle, le petit pinceau, etc. Et puis là, en fait, je vois une pelleteuse qui est... C'est pour ça que vous entendez le bruit derrière, elle est en train de reboucher les trous. Les trous qu'elle a rebouchés, c'est qu'il n'y a rien là, c'est bon, c'est sondé.
C'est ça, les sondages sont en train d'être rebouchés. En fait, on n'avait que des remblais contemporains, donc pour nous, ce n'est pas très intéressant. Ils ont été pris par un topographe pour qu'ensuite, on puisse les repositionner sur un plan. Et une fois qu'on a fait ça, on peut les reboucher.
Alors, ce qui m'impressionne justement, c'est qu'avec cette pelleteuse, quand on pense archéologie, on pense à des objets qui sont fragiles peut-être, et là on creuse à la pelleteuse. Comment vous faites pour, vous voyez ce que je veux dire, pour pas que ça abîme en fait? C'est le doigté du pilote ou il a une indication?
Alors il y a le chauffeur de pelle qui doit faire preuve effectivement de dextérité, et ensuite il y a nous les archéologues, on surveille ça de très près, puisque quand il va creuser les sondages, on est devant, on lui donne des indications, et c'est là qu'il doit faire preuve de finesse, puisqu'on peut faire des passes de 2 cm par 2 cm, ça peut être quelque chose de très fin, donc on n'abîme pas les vestiges. Alors après ça demande une surveillance accrue, mais c'est nécessaire, parce que vous voyez qu'on a des sondages, on peut descendre à 2,60 m, à plus de 2 mètres de profondeur, donc ça évidemment à la main, on ne pourrait pas le faire.
Alors ce chantier, je suis là au moment où ça va être diffusé, vous serez parti. On m'a dit oui, mais tu n'en parles pas tout de suite. Pourquoi?
Parce que pour travailler dans de bonnes conditions, on aime autant que ce ne soit pas trop diffusé pour ne pas être gêné, et surtout pour qu'il n'y ait pas de visite nocturne. Donc on aime bien avoir nous terminé notre chantier, rebouché avant que les choses se diffusent, d'autant que là on a une découverte assez intéressante. Alors on se doutait que route de Toulouse, on avait une nécropole romaine, on a des découvertes anciennes et des mentions au 19e siècle qui mentionnent des sépultures, donc on avait des doutes mais pas de certitude. Là maintenant les certitudes sont là, on a la nécropole romaine, alors il va falloir étudier plus en détail ce qu'on a trouvé lors du diagnostic, mais on a notamment des sépultures à incinération. qui sont alors pas sur toute l'emprise, mais voilà, on a la confirmation de cette nécropole, donc ça c'est assez intéressant.
Une nécropole, c'est quoi? C'est un cimetière, alors, on peut dire?
Voilà, c'est un cimetière, le cimetière romain.
Et là, je vois qu'il y a... la pelleteuse, effectivement, rebouche un trou, mais là, vous êtes en train de fouiller un petit peu plus. Il y a un petit muret à l'intérieur. Ce serait quoi, d'après vous?
Alors, on a effectivement aussi là un mur qui forme un angle. Pour l'instant, il est trop tôt pour savoir si c'est un bâtiment, quel type de bâtiment. C'est aussi l'exercice du diagnostic qui peut avoir un côté un peu frustrant, puisqu'on ne teste que 10% du terrain. Donc, on a une vision très tronquée des vestiges. Et malheureusement, on ne va pas pouvoir forcément s'avancer à faire des hypothèses. L'exercice du diagnostic, c'est quelque chose de très descriptif. On va dire quel type de vestiges on a. On a des murs, on a des incinérations. On va dire à quelle profondeur. Après, pour interpréter et partir sur la fonction de ce mur, là, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt.
Ça veut dire que vous n'irez pas plus loin dans les fouilles ?
Alors là, on est à la phase diagnostic et ensuite, c'est l'État qui décide en fait. C'est l'État, selon les aménagements qui sont prévus, qui va décider si il doit y avoir une fouille ou pas. Donc nous, on n'a pas notre mot à dire, c'est vraiment l'État en fonction des aménagements prévus.
Donc dans ce cas-là, la construction du bâtiment commercial est repoussée d'autant ?
Alors si l'État prescrivait des fouilles, il faudrait tout simplement le temps de les réaliser. Donc forcément, peut-être quelques mois pour réaliser les fouilles. Mais là encore, certains projets donnent lieu à des fouilles. Si le projet d'aménagement détruit les vestiges, l'État va prescrire une fouille. Si les aménagements ne détruisent pas les vestiges, ils peuvent se faire et les vestiges sont considérés comme conservés. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Effectivement, quand un chantier de fouilles doit avoir lieu, il faut quelques mois pour le réaliser.
Alors, est-ce qu'effectivement, vous êtes toujours, comme on a l'image, quand même, à faire avec le petit pinceau dans ces endroits-là? D'autant plus que là, on est dans une terre qui est très humide. Hein. C'est l'hiver, il a plu, etc. Moi, si j'avais su, je serais venu avec mes bottes hein, aussi. Hein. Donc, vous travaillez toujours dans ces conditions, un moment de précision?
Alors on travaille dans des conditions qui sont liées à la météo, hein, donc on a le chaud, on a la pluie, et ensuite les outils, alors c'est vrai qu'il y a l'image du pinceau, on utilise des pinceaux, mais pas toujours, et on prend vraiment les outils de toute taille, on commence avec la pelle mécanique, on travaille avec la pelle, on travaille avec la pioche, on a la truelle, et on peut finir aussi au pinceau, donc c'est une image un peu romancée de l'archéologie, mais effectivement on finit par nettoyer avec le pinceau.
Vous étiez en train de me dire que vous vous doutiez qu'il y ait une nécropole à l'époque. Comment vous en doutiez? Par quels moyens vous avez appris ça?
Alors il y a des découvertes hein, qui ont été faites au 19e siècle qui relatent des découvertes d'incinération, mais pas très bien localisées. Donc on la voyait quelque part par là, on ne savait pas où exactement. On est aussi la route de Toulouse. On suppose que dessous, on a l'axe qui reliait Cahors à Toulouse à l'époque romaine. Et les nécropoles le long des axes viaires sont assez connues pour l'époque romaine. Donc on avait des doutes. Voilà, là, ils sont confirmés.
Par contre, je suis en train de me dire que tous les bâtiments qui ont été construits, parce qu'avant, on ne faisait pas de sondage archéologique. Donc ça veut dire que dans les bâtiments qu'il y a ici, il y a peut-être... des trésors, entre guillemets, mais pas forcément pièces, etc., mais des trésors archéologiques?
Oui, alors nous, ce qu'on appelle trésor, c'est effectivement pas forcément les monnaies. Pour nous, un mur ou un niveau de sol où quelqu'un a marché il y a 2000 ans, c'est déjà un trésor. Et là, le côté frustrant, encore une fois, c'est qu'effectivement, il y a 20-30 ans, l'archéologie préventive n'existait pas. Donc tous les bâtiments qui ont été construits, s'ils sont fondés profondément, sont venus détruire ces sites. Sur cette parcelle, on a l'exemple assez typique, on a fait 4 sondages, on a 2 sondages qui sont positifs, on en a 2 qui sont considérés comme négatifs parce qu'on a des remblais contemporains sur plus de 2 mètres d'épaisseur. Donc là, on peut imaginer que s'il y a eu des vestiges, il n'y a plus.
Est-ce que ça, c'est obligatoire, là, les découvertes, ou est-ce que dans toutes les sondes... Non, ma question, elle est autrement. Est-ce que quand vous sondez, il vous arrive quand même de repartir bredouille, c'est-à-dire mais rien de rien hein?
Oui, malheureusement, ça fait partie du métier, c'est-à-dire que sur de nombreux chantiers, il nous arrive de n'avoir absolument rien et de, par exemple, enlever la terre végétale et arriver sur le substrat calcaire. C'est le jeu.
CFM Cahors, le mag.
Thank you.
Merci d'être avec nous dans le MAG sur CFM. Mardi, c'était la journée internationale des droits des femmes. Et donc, parmi les livres, il y a forcément des thèmes qui sont en rapport avec le sujet et que va nous faire découvrir Sandrine de la librairie Calligramme. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Alors donc, toi, et puis bon anniversaire déjà, en plus.
Eh oui, merci.
Voilà, et alors, tu as décidé de te mettre aux couleurs de cette journée...
De la femme, oui.
De la femme.
C'est ça qui est aussi...
Des droits des femmes,
c'est-à-dire. Des droits des femmes, oui.
Et alors, ce qui est marrant, c'est que... Bah, j'ai pas l'impression que c'est des gros romans que tu nous proposes quand même.
Ah non, moi je suis toujours... En fait, je suis restée dans la jeunesse parce que je trouve que c'est très important de militer dès le plus jeune âge pour nos droits, que ce soit auprès des filles et auprès des garçons. Donc je vous ai fait une petite sélection à ce sujet.
Alors c'est que des livres pour enfants alors ?
Ouais, j'ai pris que des livres pour enfants cette fois.
C'est toi la spécialiste ici, de toute manière. Mmh. Dinette dans le Tractopelle.
Dans le Tractopelle, c'est un album qui a été édité chez Talent Haut, je vous en avais déjà parlé lors d'une chronique précédente, où c'est vraiment un éditeur qui fait un très beau travail sur des ouvrages sur l'égalité en général, sur tout ce qui est anti-genre. Ils font beaucoup de choses qui sont toujours très pertinentes. Et là, Dinette dans le Tractopelle, on va suivre l'histoire d'Annabelle, qui est une poupée qui est dans un catalogue. Et Annabelle, elle en a un peu marre de jouer à la Dinette.
Le classique.
Voilà.
Et
elle est dans la partie rose du catalogue.
Et ben voilà.
Et Grand Jim, il est conducteur de Tractopelle.
Et avec des biscottos en plus.
Il a des gros biscottos. Et il est dans la page bleue du catalogue. Et lui, il en a un peu ras-le-bol de jouer avec des engins. Et en fait, tous les deux voudraient jouer à des jeux qui sont encore aujourd'hui un peu trop considérés comme des jeux pour des filles ou des jeux pour des garçons. Mais la tendance commence quand même à aller à l'inverse. Alors, pas à l'inverse, mais en tout cas... à proposer les deux aux enfants. Comme moi, ma fille, elle a autant une poupée que des tracteurs à la maison. Donc c'est en train de progresser, mais il y a encore du travail. Mmh. Parce que vous l'avez vu encore cette année, quand vous regardez les catalogues de jouets, il y a encore beaucoup de bleu et beaucoup de rose. Et vestimentaire, c'est pareil. Donc on a encore du travail. Donc je reviens à mon histoire. Annabelle et Grand Jim, en fait... Grand Jim, en fait, il ne sait pas ce qui se passe. Il a disparu de la page de son catalogue et il se retrouve catapulté sur la page rose. Et en fait, il est plutôt content parce qu'il va pouvoir jouer à la dinette. Et il va inviter Annabelle dans son monde. Et Annabelle est très contente parce qu'elle va pouvoir prendre le dîner sur le tractopelle de Grand Jim. Et en fait, tous les deux, au début, s'observent. Et finalement, comme ils sont tous les deux tout seuls et qu'il n'y a personne pour leur dire quoi que ce soit et pour les critiquer, parce que c'est aussi ça en fait, c'est souvent ça, c'est qu'il y a des moqueries qui font qu'on n'arrive pas à s'assumer. Et ils vont jouer tranquillement et quand les autres personnages vont revenir, finalement, le fait qu'ils s'assument tranquillement, les autres personnages ne vont rien leur dire. Et il y en a qui vont faire la même chose, qui vont aller de l'un à l'autre et le catalogue va devenir violet.
Eh bien oui, mélange du bleu et du rose.
Exactement.
Et oui, forcément. Et là, tout le monde joue à tous les jeux. Le pirate prend la dinette. Il y a une petite histoire d'amour, on dirait, dis donc.
Je ne vous en dis pas plus.
Dis donc, mais ces deux-là, là, ils se seraient tellement rapprochés à ce que je vois dans la fin. Bon, alors, ça, c'est pour le découvrir. Il faudra le lire ou le lire à votre enfant, de toute manière, parce que c'est aussi pour ça, mais bon.
Oui,
tu
voilà.
Tu l'as aimé, toi, de toute manière.
Ah oui, moi, j'ai beaucoup aimé. Les illustrations sont pas mal du tout. Vous pouvez le lire à partir de 4 ans, voire 3 ans, si vous avez un enfant qui est vraiment très demandeur d'histoire et à qui vous pouvez faire la lecture pendant parfois des heures. Vous pouvez, à partir de 3 ans... Je partirais plutôt sur 4, à partir de 4 ans. Voilà, comme ça, on bouscule un peu les préjugés, les habitudes et on change un peu les choses.
Ce qu'il faut noter, c'est qu'en plus de cela, il y a une version audio à télécharger.
Oui, Tout à fait.
Donc voilà, si c'est très bien aussi, si jamais ça fait une autre voix qui permet, vous lisez l'enfant, enfin avec votre enfant, vous écoutez la voix et vous tenez le livre, enfin bon, vous arrangez.
Voilà. C'est et pendant ce temps-là, vous lisez vous-même un livre.
Exactement. Christo et Mélanie Grand-Girard, Dinette dans le Tractopelle aux éditions Talreau, c'est pour les enfants à partir de 4 ans, mais apparemment les adultes aussi, hein. N'est-ce pas? Celui-là, c'est quand même pour qui l'histoire du soir.
Pour fille rebelle.
Pour fille rebelle.
Ouais.
Bon, t'es pas une fille rebelle, toi?
Pas trop.
Ouais. Ou alors tu vas le devenir maintenant depuis.
C'est ça.
Alors c'est quoi ça? C'est aussi pour les enfants?
C'est aussi pour les enfants. Alors,
plus grand, là, ce que je vois.
Alors
pas.
Oui, voilà. Là, c'est pour les enfants. Et même, on peut le lire, nous, en tant qu'adultes. Moi, j'ai appris des choses en feuilletant cet ouvrage que je n'ai pas encore lu en entier. On va parcourir le destin de femmes extraordinaires. Certaines femmes vont vous parler et d'autres beaucoup moins. Le but de cet ouvrage à l'origine, puisqu'il est sorti en octobre 2017, c'est aujourd'hui devenu un ouvrage de fond dans les librairies et les bibliothèques très souvent en littérature jeunesse. Puisque ça répondait à une demande qui était qu'il y avait beaucoup dans le rayon histoire pour enfants de livres sur le destin de grands hommes qui avaient fait plein de grandes choses. Et dans le rayon adulte aussi, on le voit, Titou Lecoq a récemment publié un ouvrage sur justement le destin de femmes dont on ne parle pas dans les manuels scolaires, où on met vraiment les hommes en avant. Et donc celui-ci est paru en octobre 2017. Vous pouvez le lire à vos enfants, garçons et filles, à partir de 8 ans, puisque les filles, on leur montre bien des ouvrages avec des destins de grands hommes, donc pourquoi pas ne pas montrer à des garçons des destins de femmes. Et vous avez des portraits très variés de femmes qui ont accompli de grandes choses dans leur vie. Ce qui, je trouve, est très inspirant pour les enfants qui sont à un âge où ils se demandent ce qu'ils veulent faire plus tard. Ça va les faire rêver et justement, ils vont voir qu'il n'y a pas de limite. C'est vraiment, c'est pas parce qu'on est une fille qu'on n'aime pas les maths ou des choses comme ça. Ça peut aller vraiment au-delà des préjugés ou des étiquettes qu'on peut parfois encore coller à la peau des enfants.
Il suffit de voir Julie Curie. Hein.
C'est ça, exactement.
Marie Curie, pardon.
Mais si déjà vous offrez cet ouvrage à votre enfant, c'est que vous avez déjà fait vous êtes déjà dans le bon chemin. On a des destins de femmes comme par exemple Jane Austen, l'histoire aussi des sœurs Brontë. Et on va parler aussi de Cléopâtre et de
Coco Chanel.
Et on a des destins un peu moins connus. Par exemple, donc Frida Kahlo.
J'ai même vu
Elisabeth
II.
Oui. Et là, l'histoire de Grace O'Malley. Est-ce que vous la connaissez?
Mais déjà, le nom ne me dit même rien du tout, pour être franc.
Alors moi, j'ai appris des choses aussi. Grace O'Malley, elle est née en Irlande dans les années 1500, vers 1530. Et en fait, c'est une femme pirate.
Ah ouais.
Elle a d'abord combattu des pirates. Après, elle est devenue pirate elle-même. Elle a justement combattu pour avoir des terres sur la côte ouest de l'Irlande. Et en fait, ses enfants ont été capturés. Et elle a rencontré la reine d'Angleterre pour pouvoir récupérer ses enfants et les sauver. Et en fait, étonnamment, elles sont devenues très amies, elle et la reine. Et la reine lui a rendu ses enfants.
Et quel genre de pirate sanguinaire?
Écoute, je ne sais pas, ils n'en disent pas plus.
Ouais.
Je pense que ça a été un petit peu sanguinaire dans la mesure où elle s'est emparée d'îles et de châteaux. Donc, quand ça se passe comme ça, en général, ça se fait pas sans conséquence.
Il n'y avait pas de bouton rouge à l'époque pour déclencher, voilà, forcément.
Non, effectivement.
Donc, c'était encore, on y allait dans le tas, si je puis dire.
Exactement. Donc, ça, c'est par exemple un destin. Et le destin de Jill Tarter, est-ce que vous connaissez?
Alors, moi, quand je vois l'image, je vois des télescopes, donc j'imagine que c'est une astronome ou astrophysicienne.
astronome.
Mais alors, qu'est-ce qu'elle a découvert?
Tu es perspicace.
Ouais, t'as vu ça? C'est dingue, hein? Pour un animateur radio. Pour un homme, surtout.
Je n'osais pas le dire. Alors, Jill Tarter, elle est née le 16 janvier 1944. Elle est devenue astronome et directrice du SETI, qui est
oui.
le plus... Tu connais?
Ah mais oui, c'est la grande oreille pour chercher des signes de vie extraterrestre, des
Exactement.
Signaux de vie extraterrestre.
Et donc, elle a été directrice de cette,
De
cette structure. Et pendant des années, ils ont fait des découvertes. Alors, rien de, a priori, de tangible qui puisse affirmer qu'il y a une présence, des présences extraterrestres. Mais voilà, ce type de destin montre que tout est possible, qu'on soit un homme ou une femme. Donc, je voulais vraiment vous parler de ces ouvrages-là et de celui-ci en second. À l'heure de la journée internationale
des droits de la femme.
Des droits de la femme.
Et la petite histoire avec le SETI, c'est qu'au début des années 2000, enfin 90-2000, tu pouvais installer un écran de veille sur ton ordinateur. C'était l'époque des gros ordinateurs à écran cathodique qui faisaient que quand tu étais, en veille, que tu faisais rien, ton ordinateur, il calculait, il travaillait pour le SETI, justement. Et il calculait les signaux, etc. Alors, tout le monde le faisait en disant oh, « c'est mon ordinateur un jour qui va trouver quelque chose ». Bon, ça m'est jamais arrivé.
Ça n'a pas marché.
Par contre, ça te prend de la mémoire sur l'ordinateur. Mais bon, ça c'est pour la petite histoire. Et si vous voulez d'autres histoires du soir ouais. pour filles rebelles, alors je vois pas où est le côté rebelle par contre. Autant pour la pirate, d'accord, mais autant pour l'astronome.
Alors elles sont pas. Le but c'est d'avoir un titre accrocheur, mais effectivement elles ne sont pas toutes particulièrement rebelles. Après, je pense que quand même il faut avoir un côté rebelle entre guillemets quand on décide d'être astronome à cette époque-là, et que je pense que ça doit demander beaucoup plus de ténacité et de caractère. Elle a dû sûrement devoir bousculer un peu l'ordre établi pour arriver à ce poste-là. Je pense que c'est là où, par exemple, les sœurs Bronte qui ont écrit sous des noms masculins, sinon elles n'auraient pas été éditées. Donc on parle de tout ça. Mais le but est vraiment de montrer des destins de femmes très variés pour donner, pour inspirer les jeunes filles et montrer aux garçons qu'il y a vraiment cette notion d'égalité. Et ça commence dès le plus jeune âge.
Et puis, imagine, il y avait une certaine époque, déjà tu étais femme, et en plus noire, c'était la totale, quoi. Les pauvres, voilà, c'était une drôle de période, mais heureusement, ça a le temps d'évoluer, et avec ce livre-là, eh ben, on espère pouvoir en découvrir autre chose. Histoire du soir pour filles rebelles, c'est quelle est de maison d'édition?
C'est aux Arènes.
Aux Arènes, et bien voilà, et si vous voulez d'autres livres comme ça, d'ailleurs, entre parenthèses, vous n'hésitez pas à aller voir les 7 libraires indépendantes du Lot. Merci Sandrine.
Merci Yannick.
Jeudi prochain, c'est la fête de la Saint-Patrick au doc de Cahors. Oui. Alors tant mieux parce que il y aura plus besoin de passe vaccinal. On pourra donc être debout, consommer au bar avec modération évidemment, surtout si on prend la voiture, et on pourra faire la fête tout simplement tranquillement avec la Saint-Patrick qui va accueillir enfin The Marines, parce que eux aussi font partie de ces groupes qui ont été reporté, annulé à chaque fois, enfin bref, ils ont subi de plein fouet la crise sanitaire. Enfin en tout cas, maintenant on va les revoir avec le Taraz Folk en première partie, c'est du folk rock irlandais qui nous vient de l'Ariège, et surtout en deuxième partie, The Mooring, qui eux nous viennent du Bas-Rhin, et c'est du punk celtique, et si ça vous dit, eh ben en voilà un exemplaire, tiens un petit morceau de The Moorings.
Sound of fire for the round all ears. They've done to pay the bills.
Les Marines qui seront donc au dock de Cahors ce jeudi 17 mars dans le cadre de la fête de la Saint-Patrick. En premier groupe, en ouverture, c'est donc le Taras Folk. C'est pareil, hein, c'est dans le même style, hein, c'est du folk rock irlandais. Donc vous avez compris que là, avec les Marines, c'est quelque chose qui va bouger grandement. Donc je vous rappelle que c'est le 17 mars que le pass vaccinal sera levé à partir de ce lundi-là. Donc vous pourrez y aller tranquillement maintenant. Le tarif plein est de 10 € seulement pour la soirée, 8 € si vous avez la carte Grand Pass et 5 € pour les demandeurs d'emploi RSA et moins de 18 ans ou même encore étudiants. Bref, de quoi passer une très très bonne soirée au Doc de Cahors. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet des Docs de Cahors. Dans quelques instants, une nouveauté sur CFM, histoire de vous aider, parce qu'on nous l'a proposé, histoire de vous aider dans votre choix au niveau du carburant. Vers 12h45 du lundi au vendredi, on va vous donner les endroits où vous pourrez trouver de l'essence moins chère possible. Et puis surtout, on vous donnera aussi quelques tendances. Est-ce que ça va repartir à la hausse, à la baisse? Est-ce qu'il va falloir que j'attende un peu pour faire le plein? Vous saurez tout d'ici quelques instants si vous restez avec nous. Ce magazine est à retrouver tout à l'heure à 17h en rediffusion et 21h30 également et en podcast sur cfmradio.fr. Dans un instant, le journal.